C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Aujourd'hui, je vous invite dans C'est ludique à découvrir un continent, celui de Valbara. Alors Valbara est composé de différents territoires, forêts, prairies, montagnes, rivières, villages et champs. Vous êtes le chef d'une tribu et vous allez devoir remporter, développer et harmoniser ces territoires pour avoir le plus de points possible. La bonne nouvelle, c'est que chaque membre de votre tribu a un talent particulier. Valbara est un jeu d'Olivier Sipierre édité par Studio H. Alors Valbara, c'est un jeu de collection de cartes et de gestion de main. Chaque joueur va prendre les 12 cartes membres de sa tribu, représenté par une couleur, il va les mélanger et piocher 5 cartes. On va installer aussi les cartes territoire sur 2 lignes, on met autant de cartes par ligne qu'il y a de joueurs, vous pouvez jouer de 2 à 5, si vous jouez à 3, il y aura 3 cartes en première ligne et 3 cartes en deuxième ligne. Puis vous avez une pioche de territoire, le dos des cartes indique les couleurs de vos tribus, ce qui permettra de départager en cas d'égalité. Il ne vous reste plus qu'à disposer les jetons points, voilà, et bien la mise en place est terminée. Mais alors comment on joue? Et bien à chaque manche, 9 au total, chaque joueur va choisir une carte de sa tribu qu'il pose face cachée devant lui. Tous les joueurs révèlent leurs cartes en même temps, les cartes sont numérotées de 1 à 12, celui qui a joué la carte avec l'initiative la plus basse va commencer. On est 3 à jouer, il y a un 10, un 6, un 4, celui qui a mis le 4 va jouer en premier, celui qui a mis le 6 ensuite et pour terminer, le 10. La première chose à faire est d'appliquer le pouvoir de la carte. Par exemple, si vous jouez le chasseur, la carte de valeur 3, vous dit que si vous jouez avant vos voisins, vous gagnez 3 points de victoire. Si vous jouez la sage-femme, la carte de valeur 8, vous pouvez reprendre un personnage de votre défausse. Chaque carte a un pouvoir particulier que je vous laisserai découvrir. Ensuite, vous allez choisir un territoire disponible dans la ligne numéro 1 qui va vous donner une récompense que vous prenez immédiatement. Exemple, les champs vous font gagner 2 points de victoire par champ que vous avez déjà. Vous avez 2 champs dans votre collection, vous gagnez 6 points. Celui que vous venez de prendre compte pour le calcul. Pour les montagnes, si vous en avez une, c'est bien, mais ça ne rapporte rien. En revanche, 2, c'est 10 points supplémentaires. Chaque territoire vous fait gagner des points et parfois, pour en gagner, il faudra aussi prendre en compte les territoires de vos voisins. Alors, vous vous en doutez, en tant que premier joueur, vous avez plus de choix que les suivants. Ce n'est que quand tout le monde a joué que l'on va renouveler les territoires. Les territoires de la ligne 2 passent sur la ligne 1 et on repioche de nouveaux territoires que l'on met en ligne 2. N'oubliez pas, après d'avoir fait votre tour, de compléter votre main pour avoir 5 cartes lors de la prochaine manche. La partie va se terminer dès que les joueurs ont 9 territoires devant eux. Petit bonus de fin de partie, si vous avez réussi à avoir 5 des 6 territoires, vous marquez 5 points en plus. Si vous avez les 6, c'est 10 points en plus. Valbara, c'est un jeu très addictif, on a envie de refaire une partie, c'est rapide, ça dure 20 à 30 minutes. Et ça marche aussi bien à 2 qu'à 5. Il y a de l'interaction, on va pouvoir voler des points aux autres, voire même leur en donner, mais à quel joueur je vais donner des points Les pouvoirs des personnages sont variés, on a un petit côté Libertalia avec ce principe d'initiative. Forcément que tu veux jouer en premier pour prendre une carte territoire, il vaut mieux jouer une faible initiative, mais les pouvoirs seront moins intéressants, et c'est ce twist qui fait tout le charme de ce jeu. Dernier point, les illustrations d'Alexandre Reynaud et Félix Donadio nous plongent dans l'ambiance de ce continent sauvage. Valbara, certainement l'une des plus belles surprises de cette fin d'année. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Rétro Ludique.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et on est jeudi, et le jeudi, c'est le moment de retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Rétro Ludique. Salut Jonathan.
Salut à tous.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un jeu un petit peu ancien qui s'appelle Loup-garou pour une nuit.
Ouais, tout à fait. Je voulais vous parler de Loup-garou pour une nuit. C'est un jeu de Tadal Spa chez Akiza Okui. Moi, ça me faisait plaisir de parler de ça. Je suis un grand amateur de jeux à identité secrète, rôle caché.
Ouais.
Voilà. Celui-ci, son nom, comme l'indique, est inspiré du Loup-garou de Tirselieu.
Bah oui.
Mais on est sur quelque chose de, pour moi, carrément plus moderne. Donc, pour ceux qui connaissent les loups-garous, le système de base est le même. Il y a des rôles secrets, on va tous avoir une petite carte en début de partie, qui nous indique qu'on est soit un villageois, soit un loup-garou. La particularité du jeu, comme son nom l'indique, c'est que ça se joue comme une seule nuit. Donc en gros, on va faire une phase de nuit. Alors pour ceux qui connaissent le loup-garou, ça va vous parler, où tout le monde ferme les yeux, et on va appeler les rôles, chacun leur tour, à s'activer. L'idée après, c'est qu'on va faire une phase de jour, où là on discute, on essaie de comprendre qui est qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, et on finit par une phase de vote pour éliminer un joueur. Si on élimine un loup-garou, les villageois ont gagné, et inversement. Donc, contrairement au loup-garou, c'est vraiment une seule manche de jeu.
C'est plus rapide.
Ultra dynamique. Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Ça a dit, ça enlève un peu tous les défauts, entre guillemets, de Loup-Garou, hein, qui est un jeu qui n'est pas du tout de la même époque. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élimination, tout le monde joue jusqu'au bout, puis c'est des petites parties qu'on peut enchaîner à loisir. Et puis surtout, il n'y a pas besoin de maître du jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir un joueur qui...
qui joue pas, finalement.
voilà, c'est ça. Donc, il y a un côté, bah, je trouve, beaucoup plus moderne et dynamique dans l'approche. Mais comme je disais, moi, je suis très, très fan de ce genre de jeu, donc les time bombs, les résistances, pour ceux à qui ça parle, ce genre de choses. Et pour moi, Loup-Garou pour une nuit, c'est ce qui se fait de mieux. C'est super bien travaillé. En gros, on va voir, comme dans le Loup-Garou de Tiercelieu, une multitude de rôles dans la boîte. Il n'y a pas juste que les simples villageois et les loups-garous. Mmh. On va voir plein de choses diverses et variées qui vont amener, bah, tout le sel du jeu et tout, toute l'interaction, qui fait le plaisir de Loup-Garou pour une nuit. On va vraiment retrouver, un peu comme dans Time Bomb, cette finesse de la déduction. On n'est pas comme au Loup-Garou de Tiercelieu, juste on blablate et puis un peu à la gueule, on se dit, ah lui, il a l'air louche, etc. Non, là, il y a vraiment de quoi déduire des choses. Ah ouais, toi, t'as dit ça un moment, mais ça voudrait pas dire que t'as dit ça pour me faire croire ça, etc. Donc pour moi, c'est le vrai kiff de ce genre de jeu. Dans les rôles, il y a tout, donc c'est vraiment rigolo. Bon, bah, les loups-garous qui veulent tuer un villageois, les villageois qui veulent tuer un loup-garou. On va aussi avoir, le tanneur, lui, bah, il a un objectif à part, c'est, bah, lui, il veut mourir à la fin de la partie.
C'est
s'il meurt, s'il se fait assassiner par les autres, il a d'office gagné, tout le monde a perdu. Il y a des rôles qui vont, pendant la nuit, échanger leur rôle avec un autre joueur. Ça, c'est vraiment, pour moi, un des plaisirs du jeu, c'est qu'on n'a plus le droit de regarder ses rôles une fois le jour se levé.
Ouais.
Donc, ça se trouve, on a changé de rôle, on ne le sait même pas, ça va être à nous de comprendre que, ah, mais c'est bizarre, parce que là, les gens, ils disent des trucs comme s'ils avaient le même rôle que moi, et de se dire que tout ça a changé. Enfin, voilà, moi, je m'en lasse pas, c'est sûrement l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Et je trouve que c'est une petite bombe dans son genre.
Et donc, dans Rétroludite, il fallait absolument parler, hein, de ce jeu Loup-Garou pour une nuit, sachant qu'il existe d'autres loups-garous pour un crépuscule, pour... Enfin, il y a une version aussi, je crois, avec des vampires. Et du coup, comme ça fonctionne avec une application, on peut choisir les rôles qu'on va utiliser au moment de jouer, quoi.
Ouais, c'est ça. Pour moi, l'un des plaisirs de jeu, bah, c'est l'édition aussi. C'est très bien édité. Alors moi, j'ai très peu joué avec l'application. Hein. C'est pas nécessaire. On peut, hein, ça peut faciliter les choses. Mais un joueur qui incarne un rôle peut facilement appeler les rôles à se réveiller la nuit en ayant les yeux fermés. Il y a des conseils d'installation de jeu pour te guider un peu sur quel personnage il faut mettre. Hein.
C'est ça.
C'est un jeu relativement grand public. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Et après, donc. L'éditeur original du jeu, c'est Bézier Games. Donc, à savoir que Loup-Garou pour une nuit, c'est vraiment la base. C'est le jeu de base. Et Loup-Garou pour un crépuscule et Vampire pour une nuit sont des extensions, contrairement à ce qui peut être inscrit au dos de la boîte en France.
D'accord, ok.
Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai jamais joué sans la boîte de base.
Sans la boîte de base.
Le rôle de la boîte de base.
D'accord,
ouais.
Ok. Ça, c'est bien de le préciser. Hein, pour les personnes qui achètent Loup-Garou, ils se disent, tiens, bah, je vais prendre le crépuscule au lieu de pour une nuit.
Ouais, c'est ça. Bah, en boutique, nous, on le précise systématiquement, mais c'est vrai que si vous achetez de manière autonome vos jeux de société, ouais, ne prenez pas Loup-Garou pour un crépuscule pour commencer.
D'accord. Ah bah ça, très bon conseil.
Ouais. Et à savoir aussi, juste, je le précise, donc c'est inspiré pas que des Loup-Garou de Tiercelieu. C'est inspiré de... Alors, comment ça s'appelait? Bah, ça s'appelait Loup-Garou pour une nuit, je crois. Ça devait être One Night Werewolf.
D'accord.
Le jeu original, donc c'est un jeu asiatique. Qui était de Akihisa Okui, hein, l'auteur de Loup-Garou pour une nuit, et qui a été retravaillé par Bézier Games et Ted Alspach.
D'accord, ok.
Voilà, juste pour rendre le crédit à l'éditeur et l'auteur original du jeu. Pour moi, c'est une version améliorée de ce jeu asiatique.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que tu as joué un jeu à identité secrète, là, qu'on parle beaucoup en ce moment, Two Rooms and the Boom?
Ouais, bah, c'était aussi pour ça, ouais, que je voulais vous parler de Loup-Garou pour une nuit. On s'est même pas préparé, en plus, Mathieu, tu le dis dans mon esprit.
Non, tu vois, un peu.
Tu suis vraiment bien l'actualité, t'as dit donc. Hein. Ouais, Two Rooms and the Boom, j'ai fait quelques parties, ouais.
Ouais.
Ouais, c'est vraiment, c'est excellent. C'est novateur.
Il faut être beaucoup, hein. Faut être un peu plus, je crois, que pour Loup-Garou. Hein.
Bah, pour moi, la sensation que j'avais, bah, peut-être je pitch le truc vite fait pour ceux qui ne connaissent pas.
Ouais.
Two Rooms and a Boom, pareil, jeu à rôle secret, on va tous avoir un petit rôle qu'on garde sur nous, qui nous donne notre objectif de la partie. La base, c'est qu'il y a deux équipes, donc un thème un peu moins rigolus. Hein. Il y a l'équipe qui est avec le président et l'équipe des, bon, je pense, des terroristes.
Oui, voilà, c'est ça.
Qui veulent faire péter la bombe et tuer le président. Le gros délire du jeu, c'est qu'il faut jouer super nombreux. C'est marqué à partir de 6 joueurs sur la boîte. Ouais. Je pense qu'en dessous de 10,
ouais,
enfin, moins de 100, c'est un peu.
C'est ça, ouais.
12,
c'est bien.
12-15,
ouais, c'est bien. Ouais.
Et ça monte jusqu'à 30 joueurs. Et le gros délire du jeu, c'est qu'on va jouer dans deux salles séparées. Il y a la moitié des joueurs dans une salle, l'autre moitié dans une autre salle. Ils discutent en temps limité. Et à la fin du temps, il faut switcher des joueurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un chef dans chaque salle qui va dire « Hey, vous, vous filez de là, je veux plus vous voir. » Et on intervertit un peu des membres des groupes comme ça. Et à la fin, bah, faut pas que le poseur de bombes soit dans la même salle que le président.
C'est ça.
Capter qui, etc. Et il y a vraiment, je trouve, par rapport à tous ces jeux du genre, un côté très, on fait une animation, quoi.
Ouais.
On joue à 15, ça joue dans deux pièces, ça tourne de tous les côtés, ça gueule dans tous les sens. C'est, ça, ouais, je trouve, c'est vraiment excellent. Ça a peut-être pas la finesse d'un loup-garou pour une nuit, mais c'est, si on est amateur du genre, c'est vraiment à essayer, quoi.
Ouais, et puis on va retrouver certains rôles comme Cupidon, les choses comme ça, qui essayent de mettre deux joueurs ensemble. Enfin, c'est.
Ouais, non. Alors moi, j'ai pas fait le tour des rôles. C'était mon collègue Tiziano qui nous faisait jouer.
Ouais.
On a fait trois parties d'affilée et c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un sacré paquet de rôles qui vont apporter des sensations
énormément, très différentes. Énormément de rôles. En tout cas, c'est un jeu qu'il faut jouer lors de, bah, pour les repas de famille là, à Noël, pour le Nouvel An et tout ça. Dès que vous êtes nombreux, c'est ce style de jeu qu'il faut sortir. On en reparlera dans l'émission spéciale Ambiance de Two Rooms and the Boom.
Bah, nous, ça va être clairement notre conseil du Nouvel An avec Discover. Pour moi, c'est les deux jeux à avoir en soirée.
Ouais.
Qui t'aime un temps soit peu les jeux de société.
C'est clair. Merci beaucoup, Jonathan, et à
Merci
jeudi
Mathieu.
Prochain.
À jeudi prochain, salut.